prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Un texte que vous avez peut-être déjà lu, ou si vous n'avez jamais lu ce texte dans la Bible, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce récit qui est de circonstance, ce deuxième dimanche de l'Avent, avec ce magnifique chandelier en bois. Noël, la naissance de Jésus. Un événement unique dans l'histoire de l'humanité et d'une portée extraordinaire, à tel point que des hommes viennent de loin, depuis l'Orient, on ne sait pas exactement d'où, des savants, des mages qui observent le ciel et qui ont vu, qui ont su interpréter ce qu'ils ont observé dans le ciel et qui sont venus jusqu'à Jérusalem. Ces hommes ont compris qu'un événement particulier était arrivé et que l'enfant qui était né n'était pas comme les autres. Plus que les autres naissances, toute naissance est une source de joie, toute naissance est une source d'espoir, mais la naissance de Jésus est une source d'espoir et de joie toute particulière. On va afficher 2 versets qu'on a lus. Ouais. Jésus est appelé par les mages le roi des Juifs. Et à un autre moment, on parle de Messie. Messie, c'est un footballeur, mais c'est avant tout, avec un E à la fin, c'est une personne qui est annoncée dans la Bible, dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, comme étant l'espoir d'Israël, comme étant celui qui va libérer le peuple d'Israël, qui va le sauver. Le Messie était quelqu'un d'attendu avec impatience par les Juifs. Et Jésus est le Messie. Le Messie, c'est un mot d'origine hébreu, hébraïque. Et est-ce que vous savez quelle est sa traduction en grec qu'on utilise toujours aujourd'hui ? Christ. Christ. Jésus-Christ et Jésus le Messie. Quand on parle de Jésus-Christ, on affirme que Jésus est le Messie. Et puis la joie nous est rappelée ici au verset 10. la joie des mages qui voient l'étoile, qui arrivent au terme de leur chemin, de leur quête. Ça y est, ils vont arriver à l'endroit où se trouve l'enfant. On voit la joie, on voit l'espoir du côté des mages. Et quand on regarde ce qui se passe dans le palais du roi Hérode, c'est une autre histoire. Hein. Là, on voit de la peur, on voit de la méfiance, on voit de la manipulation. Et puis, à la fin du texte, on voit quelqu'un qui entre dans une colère folle et qui met en route un massacre terrible, un massacre d'enfants, de nouveau-nés. Hérode, le roi qui règne sur ce territoire à l'époque avec le soutien des Romains, cherche à éliminer Jésus parce qu'il y voit un rival, il se sent menacé par lui. La naissance de Jésus, c'est une flamme d'espoir qui naît dans le monde et presque immédiatement, il y a une opposition qui naît, une violente opposition pour essayer d'éteindre cette flamme. Alors cet épisode qu'on appelle traditionnellement le massacre des innocents et qui est fêté encore dans l'Église, dans le calendrier liturgique le 28 décembre, les saints innocents, c'est pour se rappeler de cet épisode-là. Il a inspiré de nombreux artistes, on va voir quelques tableaux parce que c'est effectivement une scène dramatique, une scène tragique. Je ne sais pas s'il y a des marqueteries qui ont été faites de cet épisode, mais peut-être qu'on en trouvera. Pour l'évangéliste Matthieu qui écrit ce texte, c'est aussi une source de tristesse. Et il va citer un texte très ancien, qui a plus de 600 ans. On va afficher aussi ce texte. On vient de le lire, c'est les deux derniers versets. Un texte qui a été écrit par le prophète Jérémie. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit, d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils, elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Donc ça a été écrit 600 ans avant la naissance de Jésus. Et pour Matthieu, cette tristesse qui existait à l'époque, c'est la même que celle qu'ont vécu les habitants de Bethléem après ce massacre ordonné par Hérode. 600 ans avant, tout le peuple juif avait été emmené prisonnier à Babylone, en déportation. Le pays était dépeuplé. D'un côté, l'espoir, la joie chez les mages. De l'autre, la colère, l'opposition d'Hérode et la tristesse. En relisant ce texte, ça m'a fait penser à un film. Je ne sais pas si vous avez, vous, des films préférés. En tout cas, moi, ma fille aînée, Clémence, c'est sans conteste le number one, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Elle l'a vu en version standard, en version longue avec les commentaires des réalisateurs, version longue avec les commentaires des acteurs. Elle a lu le livre de Tolkien, qui fait quand même un sacré pavé. Moi, j'ai juste vu la version standard et puis ça m'a suffi. Mais j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez lu le livre de Tolkien, mais en tout cas, on pourrait résumer l'histoire du Seigneur des Anneaux par le titre du dernier livre, Le Retour du Roi. Dans le monde qui est décrit, un monde imaginaire qui s'appelle la Terre du Milieu, il y a un seigneur mauvais qui s'appelle Sauron et qui domine et qui étend sa domination sur les différents territoires, sur les différents royaumes. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un soldat vagabond qui s'avère être le vrai roi, le roi légitime, Aragorn. On va afficher le visage de l'acteur, voilà, un beau gosse. Et toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, ça va consister à faire en sorte que cet homme, qui est le roi légitime, puisse retourner sur le trône de son royaume. Et pour cela, il va y avoir toute une communauté, la communauté de l'anneau qui va se réunir. Enfin voilà, je vous fais pas l'histoire. Mais ce désir de voir le roi légitime arriver sur le trône va susciter une opposition énorme de la part de ce seigneur maléfique, Sauron, qui va essayer de mettre en œuvre toute une série de stratagèmes pour tuer ce roi et ses amis. Alors, on peut enlever la photo. Dans le texte que nous avons lu, il y a deux rois. Il y a Hérode et Jésus. Mais seul Jésus est le roi légitime. Seul Jésus est le vrai roi, car c'est Dieu. Jésus est Dieu. Il a créé le monde, il est souverain. Hérode ne le comprend peut-être pas lorsqu'il se met en colère et qu'il ordonne de massacrer tous ses enfants. Mais en fait, Hérode, il est dans une réalité qui le dépasse sans doute, où il va s'opposer au plan de Dieu pour l'humanité. Espoir et joie d'un côté, opposition et tristesse de l'autre. Des fois, dans nos vies, on a aussi la présence simultanée de ces deux choses. Et c'est une réalité de la vie chrétienne de vivre ces réalités-là. Jésus, à plusieurs reprises, a averti ses disciples que être disciple de Jésus allait aussi se traduire par une opposition. On va juste lire deux passages. C'est Jésus qui parle à chaque fois. On va afficher Matthieu chapitre 10, versets 16 et 17, Jean chapitre 15, verset 19. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fouettera, on vous fera fouetter dans leur synagogue. Et Jean chapitre 15, souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Dans notre vie, lorsqu'on veut avancer avec Dieu, lorsqu'on veut suivre Jésus comme un disciple, quand on veut par exemple consacrer plus de temps dans nos journées déjà bien remplies pour prier, pour penser à Dieu, pour lire la Bible, alors dans ces moments-là, il peut y avoir une résistance, une opposition. C'est désagréable, c'est pas plaisant du tout, mais c'est normal. Jésus a mis en garde ses disciples, et ça ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas un bon chrétien ou que sais-je. C'est quelque chose de normal. Et pour parler de cette opposition, la Bible utilise l'image d'un combat et l'image des soldats. Dans un livre de la Bible, Éphésiens, au chapitre 6, le chrétien est comparé à un soldat qui doit s'équiper, qui doit mettre une armure pour pouvoir se défendre. Mais ce n'est pas un combat contre d'autres personnes que le chrétien doit vivre. Certainement pas. Le combat du chrétien, du disciple de Jésus, est avant tout un combat spirituel. Oui, la naissance de Jésus apporte l'espoir et elle donne lieu à un combat contre des forces qui cherchent à éliminer Jésus et Hérode est le représentant de ces forces-là. Et dans nos vies, lorsqu'on veut avancer avec Dieu, avec Jésus, bien souvent, ça nous fait entrer dans un combat spirituel. Alors on va se poser la question, mais un combat contre qui, contre quoi ? Quand il y a un combat, il y a forcément nous et puis quelqu'un d'autre. Si on revient au récit de ce matin, on se dit, ben voilà, c'est un combat d'Hérode contre Jésus. Hérode, il a agi de sa propre initiative. Il a vu un rival et il voulait le tuer. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Hérode a fait assassiner tous ses descendants potentiels ou ses neveux, etc., par crainte de se voir... Là, c'était quand même ce qui est présenté là dans le récit de Matthieu, c'est quelque chose que l'histoire nous a montré après par la suite. Et d'autres rois dans l'histoire ont eu les mêmes réflexes de vouloir tuer tous les rivaux potentiels. Mais Hérode est aussi un rouage dans quelque chose de beaucoup plus grand, un mécanisme qui le dépasse. Il est un rouage d'une force qui veut s'opposer à Dieu, qui veut s'opposer à Jésus, qui s'oppose à l'Évangile. Et cette force, la Bible nous dit que c'est plus qu'une force, que c'est une personne, un être, qui s'appelle Satan ou le diable. Je vous ai dit qu'on parle de l'armure du chrétien à un moment donné dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens. On va juste lire les tout débuts de ce passage, puis après, l'apôtre Paul donne le casque, l'épée, etc. Mais voyons juste ce qu'il dit comme introduction. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. » Le combat spirituel que l'on a à mener, c'est avant tout un combat contre les ruses et les attaques du diable. Alors, parler du diable en 2018, c'est soit on est complètement délirant, soit on est complètement ridicule. J'ai tapé « diable » sur Google pour faire une recherche, Google Images, on va voir ce que ça fait venir. Voilà. Bon, alors la première ligne, c'est hors sujet, ça sert pour les déménagements. Et voilà, le diable... C'est un bonhomme rouge avec des cornes, une fourche. Parfois il est méchant, parfois il peut être le diablotin gentil. Il y a aussi, sur l'image suivante, ceux qui regardent le Tour de France, vous avez sans doute déjà vu ce bonhomme-là, un Allemand qui courait sur les étapes déguisé en diable. Donc voilà, un personnage qui était censé faire peur au départ, mais qui en fait est plutôt folklorique. Mais ça, c'est une vision caricaturale du diable. Ça, c'est pas le diable dont parle la Bible, certainement pas. On a parlé de l'écrivain anglais Tolkien. Il avait un ami très proche, un autre écrivain anglais. Ils se voyaient toutes les semaines dans des rencontres littéraires dans la ville d'Oxford. Cet homme, c'était C.S. Lewis. Alors, C.S. Lewis est très connu pour avoir écrit un grand récit imaginaire qu'on appelle « Le monde de Narnia ». En différents volumes, mais C.S. Lewis a aussi écrit toute une série d'ouvrages chrétiens, dont celui-ci, Tactique du diable. C'est un de ses ouvrages chrétiens les plus connus. Et dans ce livre, C.S. Lewis, il imagine un dialogue entre un démon, déjà bien aguerri, qui a beaucoup d'expérience, et un petit jeune démon là qu'il faut former. Donc c'est un livre qui a beaucoup d'humour sur la forme, mais qui est très sérieux sur le fond. Et donc, c'est un livre qui vise à montrer aux lecteurs, aux chrétiens, quelles peuvent être les différentes ruses, justement, du diable. Et je vais juste citer un petit passage au chapitre 7. Donc, c'est le démon expérimenté qui s'adresse à son apprenti. « Je ne pense pas que tu auras trop de peine à garder ton protégé dans l'ignorance. » Donc, le protégé, c'est la personne qu'il doit viser. Le fait que l'imagination moderne a fait du diable un personnage comique te facilitera la tâche. S'il y avait le moindre indice qu'il soupçonne ton existence, présente-lui un personnage en collant rouge. Convaincu par toi qu'il ne peut pas croire à de pareilles niaiseries, il finira par comprendre qu'il ne peut pas croire en toi. La Bible ne dit pas qu'il faut croire en un bonhomme en collant rouge avec des cornes. Non. C'est une vision caricaturale. La Bible affirme qu'il y a un être malfaisant qui s'oppose à Dieu frontalement et qui a cherché à faire disparaître Jésus et qui cherche aussi à affaiblir les croyants. Voilà, ça c'est ce que la Bible affirme. Et c'est dans cette réalité-là que les chrétiens vivent le combat spirituel. Alors, quelle forme peut prendre ce combat quand on parle de combat spirituel? Si on prend l'exemple de la vie de Jésus, si vous relisez les évangiles, on voit que Jésus a été confronté au diable à plusieurs reprises, la tentation, au désert, la trahison de Judas, la mise à mort sur la croix. Ça, c'est des oppositions extérieures. Mais Jésus a aussi eu à combattre intérieurement. On le voit notamment lorsqu'il prie la veille de sa mort dans le jardin de Gethsémané. Je pense qu'aujourd'hui, le combat spirituel auquel on est confronté, tous les croyants, tous les disciples de Jésus, il se vit avant tout dans notre cœur, dans notre esprit, à travers la tentation et à travers aussi tout particulièrement nos pensées, nos croyances, ce que l'on croit sur Dieu, ce que l'on croit sur nous. Rappelez-vous la toute première fois que la Bible nous parle du diable. C'est dans quel livre? Genèse, au chapitre 3. Sous la forme d'un serpent qui s'adresse à Ève. Et quel est le but du serpent? Faire douter de ce que Dieu a dit. Ah oui, Dieu a vraiment dit que vous n'avez le droit de manger de rien? Mais non, voyons, vous mangez-en. Le but du diable, c'est de faire douter de la bonté de Dieu dans l'épisode de Genèse. Faire passer Dieu pour un rabat-joie qui est hostile à l'épanouissement des hommes. Et c'est une des ruses principales, c'est que de mélanger des affirmations qui peuvent être vraies en apparence et qui sont fausses dans le fond. Amener l'homme à croire des erreurs sur Dieu, sur lui-même. Je pense que c'est là un des axes du combat spirituel du chrétien. Jésus rappelle en Jean 8, 44, on va juste lire la fin, le passage. Là, tu peux avancer. Voilà. Le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Alors comment peut-on avoir de tels combats intérieurs? D'où est-ce que cela vient? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ça peut être lié à une compréhension parfois incomplète de certaines vérités bibliques, parce qu'on s'est arrêté à de la nourriture pour enfants, on n'est pas passé à la nourriture solide. Ça peut être lié à notre passé, à des blessures, des expériences douloureuses qu'on a vécues et qui ont forgé le regard qu'on a sur nous-mêmes ou le regard qu'on a sur Dieu. Dieu est forcément méchant. Dieu attend forcément de moi que je fasse des efforts. La grâce, c'est trop facile. Des blessures qui ne sont pas complètement guéries peuvent nous retenir dans ces idées fausses. Et ce sont des points de faiblesse. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas un bon croyant, mais ce sont des points de faiblesse dans nos vies que le diable va utiliser. Il y a un certain nombre d'affirmations de la Bible. J'étais au début du mois de novembre à un séminaire avec Sylviane, il y avait aussi Nadine, Céline, sur le besoin de changer. C'était organisé par Famille Je T'aime. Et on avait toute une liste d'affirmations bibliques. Il fallait qu'on arrive à cocher en face si on se les est vraiment appropriées du fond de notre cœur. Et en fait, en creusant, en réfléchissant, on se dit, mais est-ce que je crois vraiment que je suis un enfant d'adoption de Dieu? Que j'ai tout pleinement en Jésus? Que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, même pas la maladie? Que j'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance? Que j'ai été choisi, établi par Dieu? On a toute une série d'affirmations. Dans certains cas, on réfléchit avant de cocher, ou on coche à moitié, parce qu'on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment saisi ça pour moi? Parfois, on se sent, malgré ces affirmations bibliques, on se sent encore indigne. On se sent indigne d'être aimé, on ne se sent pas à la hauteur, impuissant, sans valeur. Nous avons besoin de demander à Dieu de renouveler notre intelligence, de purifier aussi les idées fausses que nous pourrions avoir. Parce que ces idées fausses, ces fausses croyances, elles ne remettent pas en cause notre salut. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas de ça dont il est question, mais elles peuvent nous handicaper dans notre marche avec Jésus. Elles peuvent nous conduire à adopter aussi un repli sur soi ou une fuite devant les difficultés. Dieu veut nous faire vivre dans la vérité, nous permettre de remporter le combat spirituel. Et la meilleure façon de vaincre les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Renforcer notre communion avec le Seigneur pour résister aux assauts de l'ennemi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Confiez-vous en l'Éternel. Jacques 4, verset 7. Et dans la prière que Jésus a laissée, la prière du Notre Père, une des toutes premières demandes, c'est que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Ce royaume, ce règne de Dieu, nous pouvons prier pour qu'il arrive dans le monde, dans la société. Nous pouvons aussi prier qu'il arrive dans notre vie entière. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mes pensées. Que ton règne vienne dans ce que je crois. Que ton règne vienne pour guérir les blessures du passé. Et pour conclure, j'aimerais citer une autre des demandes qu'on trouve dans la prière du Notre Père. Délivre-nous du mal. Ou du malin. On trouve les deux traductions. Le malin étant le diable. Délivre-nous du mal. Oui, Dieu peut nous délivrer du mal, du diable. Et dans le combat spirituel dans lequel on est tous engagés, Dieu nous assure que l'issue est déjà connue. Parce que Jésus a remporté la victoire à la croix. On va partager dans quelques instants du jus de raisin et du pain pour se rappeler de la mort de Jésus. Cette mort, elle nous garantit que le combat est victorieux, que l'issue de tous les combats auxquels on est confronté dans nos vies, que cette issue, elle est en faveur de de Dieu. Si je reprends l'image du début avec la poussée d'Archimède, il y a de la résistance si on veut immerger un objet. Mais là, si on pousse suffisamment à un moment donné, on va réussir à l'immerger complètement. Il y a un moment où le matériau cède, un moment où lorsque les ébénistes taillent le bois, je regarde de ce côté, à un moment donné, le bois, il cède, voilà, même si on tombe sur un nœud. Dans le texte de ce matin, est-ce que Hérode a réussi à tuer Jésus, à éliminer Jésus ? Non. Dieu a protégé Jésus en prévenant les mages, en prévenant Joseph. Il a permis qu'il ne soit plus à Bethléem au moment du massacre. Jésus est-il resté dans le tombeau après avoir été crucifié ? Non. Il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort et la victoire dans le combat spirituel est assurée. Je disais tout avant qu'on parlait du diable, que c'est une grande erreur de croire que le diable n'existe pas ou de sous-estimer son pouvoir de nuisance. Mais c'est une tout aussi grande erreur de surestimer son pouvoir de nuisance, de voir le diable partout, d'en avoir peur, une peur panique. Jésus a vaincu à la croix. On va réafficher le texte qu'on a lu tout à la fin du passage. Matthieu chapitre 2, verset 18. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Je vous disais que ça parle d'une situation qui s'est passée 600 ans avant, qui vient du livre de Jérémie. Donc on va juste afficher du coup Jérémie. Là, voilà, Jérémie chapitre 31, verset 15. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après ce verset. Alors j'ai juste affiché les deux versets suivants, mais relisez l'ensemble du chapitre, c'est vraiment intéressant. Alors on va afficher. Voici ce que déclare l'Éternel, retiens-toi de pleurer, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense, l'Éternel le déclare. Et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. Le monde est dur. La vie chrétienne, parfois, peut être une vie difficile avec des combats intérieurs, des combats spirituels. Mais il y a la victoire en Christ et il y a cette espérance, cette promesse de rétablissement que l'on trouve ici, adressée 600 ans avant la naissance de Jésus aux Juifs, mais qui vaut encore pour nous aujourd'hui. Et c'est le message de Noël, une lumière a jailli dans l'obscurité. Dans nos combats, on peut être découragé, on peut être triste, comme ces femmes qui pleuraient leurs enfants partis à Rama. Mais dans les combats les plus difficiles, les temps les plus sombres, il y a l'espoir. Pas parce qu'on s'en sortira tout seul, mais parce que nous pouvons compter sur Dieu et sur Jésus, son Fils, qui est né il y a 2000 ans, comme on le rappelle à Noël, qui est mort à la croix, comme on va le rappeler avec la scène, et qui est ressuscité, et qui vit à jamais. Amen. J'aimerais inviter Jin Chong, Timothée, à m'aider à partager, à distribuer, Edith et Lucille, si vous êtes d'accord. Non, il y aura un chant. Donc Edith et Dominique, si vous êtes d'accord. Juste à vous approcher de la table où se trouve le pain et le jus de raisin. Le temps que nous allons passer maintenant nous rappelle ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Il a accompli une délivrance complète. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, on l'a chanté. Je ne sais plus quelles sont les paroles exactes, mais Rédempteur ou Sauveur, tu as vaincu la mort. Oui, je sais, mon Dieu est vivant. Oui, il a vaincu la mort. De Bethléem à la croix, Jésus a vécu un ministère. Il s'est révélé comme étant Dieu venu sur terre pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et avant de partager ce pain et ce vin, je vous propose de prier. Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir des prières où on prie tous ensemble dans notre Église, mais à deux reprises, j'ai parlé de cette prière du Notre Père. Et je vous propose qu'on puisse se lever, qu'on puisse dire cette prière tous ensemble. La prière que nous a laissée le Seigneur Jésus, pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus, on va l'afficher. Disons cette prière en s'adressant à notre Père Jésus, à notre Père Dieu, à Dieu le Père, mais aussi à Jésus, son Fils. Oui, que son règne vienne dans nos vies, que son règne vienne dans notre Église, que son règne vienne dans nos relations entre frères et sœurs. Et Seigneur, délivre-nous du mal. Parfois nous sommes oppressés, parfois nous sommes attaqués, nous sommes tentés. Délivre-nous du mal, parce qu'à la croix, tu as vaincu. Et nous pouvons nous approprier cette victoire. Je vous propose de prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. On va prendre un chant pendant, ou un morceau de musique.
Vous avez écouté simplement, vous pouvez vous asseoir pendant le temps et le temps.